France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comment l'industrie agroalimentaire nous fait avaler son alimentation ultra transformée? C'est notre thème ce matin, à l'occasion d'un très bon documentaire diffusé ce soir sur Arte. Nous sommes massivement devenus accros à ce type d'alimentation depuis les années 1970. Mais comment des multinationales comme PepsiCo, Mondelez International, Danone, Nestlé ou Unilever nous poussent à consommer leurs produits ultra transformés? Vous verrez par exemple ce qu'est le point de félicité qui nous pousse à ingurgiter toujours plus de chips, biscuits salés et sucrés, barres chocolatées, friands, cordons bleus, lasagnes préparées, bonbons et autres nuggets. Comment ces entreprises ont-elles conçu ce point de félicité, le point de félicité de ces aliments ultra appétissants, et comment la neuro-imagerie a permis de nous rendre accros? Nous reviendrons sur les effets de cette alimentation ultra transformée sur notre santé. Nos invités attendent toutes vos questions aux 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Racontez-nous comment, pourquoi vous ne parvenez pas à résister, ou à contrario, comment vous faites pour ne pas succomber. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Un Français sur deux est en surpoids.
Mais les aliments industriels,
au sucre, aux graisses, au sel,
sont une bombe sanitaire.
La préparée boisson sucrée est associée à un risque accru de 32 problèmes de santé.
La recherche scientifique a établi des liens entre aliments industriels, conditionnés, ultra transformés et obésité, maladies chroniques et mort prématurée.
On a montré des liens entre l'exposition d'additifs ou encore des édulcorants et un risque accru de différentes pathologies comme cancer, maladies cardiovasculaires ou diabète de type 2.
D'hypertension, de maladies de Crohn, de dépression, de troubles du sommeil, d'anxiété ou d'asthme, dans l'ensemble une consommation.
On est en pleine crise alimentaire. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de consommer ces produits.
Extrait du documentaire « Tous accros, le piège des aliments ultra transformés » diffusé ce soir sur Arte à 21h. Bonjour Mélissa Mialon.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure en agroalimentaire, docteur en nutrition, chercheuse à l'INSERM. Vous êtes chercheuse également à la Trinity Business School en Irlande et vous participez au documentaire diffusé ce soir sur Arte. Un documentaire inspiré du livre Ultra Transformé du médecin chercheur britannique et présentateur à la BBC, Chris Van Tulken, qui a publié ce livre chez Hachette avec ce sous-titre choc, on mange de la je vous laisse deviner, et le pire, c'est qu'on en redemande. Bonjour professeur Bernard Srour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en épidémiologie au CRES et Rennes et coordinateur du réseau NACRE. Le réseau NACRE veut dire nutrition, activité physique, cancer, recherche. Exactement. Bonjour Pierre Slamiche.
Bonjour.
Vous avez cofondé l'association Open Food Facts qui propose une application indispensable. Présentez-nous en quelques mots Open Food Facts. Quelle est sa mission? Une association qui travaille en collaboration avec Santé Publique France.
Alors, Open Facts, c'est effectivement une association qu'on a créée il y a 10 ans face au fait que les étiquettes étaient totalement illisibles. Et donc, pour apporter les données, pour faire des choix qui soient meilleurs pour soi, pour sa santé, pour la planète. Et donc, c'est un projet collaboratif où on rassemble les données des aliments sur les étiquettes. Et puis après, on peut calculer des choses intéressantes comme l'ultra-transformation, l'impact environnemental. Et non seulement ça aide les consommateurs, mais ça aide aussi la recherche scientifique. Parce que les données qu'on génère, ça a été mentionné, c'est mentionné dans le documentaire, elles vont aider les chercheurs à faire progresser la science.
Un exemple concret, vous nous avez apporté une petite boîte de sauce bleu schtroumpf, c'est ça, bleu, avec un bleu assez étonnant pour une sauce, et il n'y a pas d'étiquetage, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et on imagine que le bleu de cette sauce vendue chez un célèbre fast-food, on imagine qu'elle n'est pas très naturelle, cette sauce, hein.
Alors, effectivement, il n'y a pas de liste d'ingrédients. Donc, c'est clairement un truc marketing pour amuser les enfants, attirer les enfants. Du coup, totale opacité, c'est probablement un aliment ultra transformé avec des additifs, des choses qui ne devraient pas être dans une sauce. Et ça a aussi un but qui est de... voilà, de créer une envie, une des impulsions chez les enfants de manger du fast-food et de revenir régulièrement au fast-food.
Bonjour Benoît Brun.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur à l'ESCP, co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de la Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès, et vous avez écrit un Que sais-je consacré au packaging. Qu'est-ce que le packaging en quelques mots?
Le packaging, c'est tout simplement l'interface entre le produit et le consommateur. Donc c'est apparu avec le libre-service au 19e siècle, à partir du moment où on a commencé à empaqueter en fait, les produits. Les gens choisissaient directement dans les rayons, donc il fallait des indications pour expliquer ce qu'il y avait dans le produit. Et puis c'est là qu'on a inventé aussi les personnages de marque. C'est-à-dire qu'on a fait comme si on s'adressait à des vraies personnes, alors qu'on était dans un régime purement symbolique.
Et c'est important de parler du packaging, parce que le packaging contribue à rendre les aliments ultra transformés, ultra appétissants. Avec nous également, un auditeur agriculteur en Corrèze, à Quessac-les-Vignes, éleveur de veaux sous la mer. Bonjour Franck Thérieux.
Bonjour Ali.
Et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez au cours de cette émission. Vous êtes de passage à Paris pour aller au Salon de l'Agriculture. Maïlissa Mialon, comment reconnaître un aliment ultra transformé? De façon plaisante, Chris Van Tulken, dans son livre Ultra Transformé, dit « Si c'est emballé dans du plastique et qu'il y a un ingrédient que vous ne trouvez pas dans une cuisine traditionnelle, comme un émulsifiant ou un édulcorant artificiel, eh bien c'est un aliment ultra transformé ». Vous pouvez peut-être préciser cette définition de l'alimentation ultra transformée?
Oui, ben, en gros c'est ça. C'est des aliments dont les ingrédients, on les retrouve pas forcément dans notre cuisine. Il y a aussi le processus de fabrication, donc la façon dont c'est fabriqué. Par exemple, si c'est soufflé, certains céréales soufflées le matin sont ultra transformées, même s'il n'y a pas forcément des additifs en plus. C'est souvent voilà, des aliments avec des additifs. Et puis, en effet, on peut les garder souvent très longtemps. C'est ça qui fait la différence avec un aliment frais ou quelque chose que vous auriez préparé en cuisine qui se garde juste quelques jours.
En 2009, un chercheur avec lequel vous avez travaillé, Mélissa Mialon, le professeur Carlos Montero, chercheur à l'université de São Paulo au Brésil, a mis au point une classification reconnue internationalement, la classification NOVA. Racontez-nous ce système de classification des aliments selon leur degré de transformation.
Oui, alors ouais, en effet, la classification NOVA, elle est vraiment différente de tout ce qui se faisait jusqu'à présent en nutrition, parce qu'au lieu de parler du sucre, du gras, du sel, là, il était question de parler de différents degrés de transformation. Donc, vous avez les aliments qui ne sont pas du tout transformés, parce que vous pouvez retrouver comme une carotte, de la viande, des choses comme ça.
Les fruits, les légumes.
Ensuite, la deuxième catégorie, c'était des ingrédients qu'on rajoute, donc comme du sel, de l'huile, des choses comme ça aussi. Et puis, ça avec ces deux catégories-là, on fabrique la troisième catégorie qui est l'alimentation transformée. Donc ça, c'est ce que vous faites en cuisine, ce que vous pouvez retrouver au restaurant quand c'est fait maison. Et puis, la quatrième catégorie, et c'est celle qui pose problème à la santé, c'est celle des aliments ultra transformés. Et c'est là où on retrouve des choses qui sont complètement différentes des trois premières catégories, avec des additifs qui sont extraits des aliments, avec des processus de fabrication aussi qui ne sont pas reproduits et reproductibles à la maison. Donc voilà, la quatrième catégorie en particulier de cette catégorisation est problématique.
Et oui, ces aliments ultra transformés renvoient à des procédés complexes qui transforment en profondeur la matrice, la composition, la structure d'un aliment grâce à divers procédés physiques et chimiques avec l'ajout d'additifs destinés donc à améliorer l'aspect, la saveur, la consistance ou la conservation des aliments. Pierre Slamich, dans certains aliments ultra transformés, on ne retrouve plus de traces d'aliments bruts.
Il y a des choses où tous les premiers ingrédients vont être des ingrédients qui sont craqués, hydrolysés, modifiés. Ça, c'est des choses qu'on est capable de repérer. Des additifs aussi qu'on va retrouver. Et donc, et des produits où on va voir des fruits sur l'emballage, des fraises, etc. Et où en fait, il y a un arôme fraise. Mmh. Donc, c'est très clairement quelque chose qui est très compliqué parfois à lire sur la liste des ingrédients parce qu'il y a effectivement les additifs qui sont simple à repérer, mais de plus en plus les fabricants font ce qu'ils appellent le clean labeling.
C'est quoi ?
Alors c'est en fait du coup avoir des ingrédients qui sont moins faciles à repérer plutôt que mettre par exemple des nitrites, ça va être un bouillon de légumes qui en fait contient des nitrites, ça va être ce genre de choses et donc en fait c'est pour un peu piéger le consommateur sur la liste des ingrédients.
Professeur Bernard Sroure.
Oui, alors dans les aliments ultra transformés, justement, comme ce que disaient les collègues, on peut avoir justement ces ingrédients qui sont issus des aliments. Mmh. On va très rarement retrouver des aliments entiers. Donc à partir d'un grain de maïs, on va pouvoir fabriquer du sucre, du sirop de glucose par exemple, des aminos modifiés, etc. Après, on va rassembler tous ces petits ingrédients. On va avoir quelque chose au final qui n'a pas beaucoup de goût ni de texture. Et après, pour lui donner un bel aspect, on va rajouter des additifs alimentaires, on va rajouter des édulcorants pour donner un goût sucré, on va rajouter des colorants pour donner une couleur, des émulsifiants pour former une belle texture. Et après, on va mettre ça dans un beau packaging qu'on va essayer de vendre avec un marketing qui est assez intense.
Professeur Bernard Strohr, certains parlent de chimie alimentaire. Vous êtes d'accord avec ça? Et je rappelle que 330 additifs sont autorisés dans notre pays. Chimie alimentaire.
Chimie alimentaire, j'ai envie de dire, même nous à la maison, quand on prépare à manger, on fait de la chimie alimentaire. Donc tout est une question de chimie. Après, est-ce qu'on pousse la chimie à un degré un peu très... Enfin, est-ce que c'est de l'ultra-chimie? C'est là où la question se pose.
Mélissa Mialon, sur ce terme de chimie alimentaire, avec le sens péjoratif que l'on peut apporter à ce terme de chimie?
Alors, pour avoir fait une formation d'ingénieur agroalimentaire et puis côtoyer beaucoup de collègues qui sont ingénieurs maintenant, on parle de formulation. Enfin voilà, on est dans des laboratoires. Enfin, c'est vrai que ça ressemble pas à une cuisine classique. Et les ingrédients qu'on utilise non plus ne ressemblent pas à des cuisines classiques. Donc on peut en effet parler de chimie là où c'est peut-être pas la même chose qui se passe quand vous faites à manger chez vous.
Pierre Slamiche.
On parlait de tours de magie tout à l'heure. Là, on peut vraiment parler de trucage en fait. Le but en fait des aliments ultra transformés, c'est un peu une stratégie financière, c'est un projet financier. C'est prendre des ingrédients normaux, des ingrédients nobles, et puis les substituer par quelque chose de moins cher. Et du coup, voilà, comme disait Bernard, faire tous les trucages nécessaires pour donner l'illusion au sens qu'on mange un vrai aliment.
Et puis, essayer aussi de remplacer les aliments utilisés dans les cuisines traditionnelles. Mmh. Et c'est ça que le professeur Montero met en avant dans sa définition. Justement, les aliments ultra-transformés ont été créés pour essayer de remplacer l'alimentation traditionnelle dans plusieurs pays. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi.
Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles. Vous remplacez ce matin notre camarade Éric Libiot, blessé à la main. Et on lui souhaite un très bon rétablissement. Vous n'avez pas choisi un objet, mais vous assurez quand même la chronique.
Voilà, alors pas un objet, mais plutôt ce qui se cache derrière ce sigle de trois lettres AUT.
Alimentation ultra transformée. Et évidemment, on retrouve vos questions toujours pertinentes, ma chère Marie-Laure.
France Inter.
C'est la liste des courses pour demain, ça ?
Qu'est-ce qui va pas encore ?
Pizza surgelée, ketchup, mayonnaise, frites.
Grand bien vous fasse.
Pain pour hamburger, saucisson, pâté, chocolat, petit gâteau d'hiver, saucisse de Strasbourg, bonbons.
Ali Rébéi.
Mais là, on va direct à l'occlusion intestinale. Hein.
Bon.
Comment l'industrie nous fait avaler son alimentation ultra transformée et pourquoi on en redemande à l'occasion de la diffusion ce soir sur Arte à 21h du documentaire Tout s'accro, le piège des aliments ultra transformés.
Voyons ce qu'il y a là-dedans. Inosinate d'isodique,
maltodextrine, perméa de lactosérum,
phosphate de potassium,
polydextrose,
glutamate monosodique,
acide citrique,
chlorure de potassium,
émulsifiant,
stabilisateur,
ribonucléotide d'isodique,
hydroxypropylméthylcellulose,
gélifiant, désolé mais c'est pas de la nourriture.
Voici des composés que vous ne retrouverez pas dans votre cuisine, mais qu'on retrouve dans l'alimentation ultra transformée. Professeur Bernard Strohr, je rappelle que vous êtes chercheur en épidémiologie. Que sait-on de façon solide sur les effets à moyen et long terme de cette alimentation bourrée d'additifs sur notre santé, sur l'obésité, sur une série de maladies chroniques comme les pathologies cardiovasculaires ou certains cancers? Racontez-nous un peu l'état de la science.
Alors, ce que dit la science aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près une centaine d'études prospectives. Donc une étude prospective, ça veut dire qu'on va suivre un groupe de personnes sur 10, 15, 20 ans. On va regarder ce que ces personnes consomment et après on va regarder dans le temps si ces personnes développent des pathologies ou pas. On a presque une centaine d'études qui nous disent que les personnes qui consomment beaucoup d'aliments ultra transformés ou plus que d'autres ont plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires, de développer du surpoids ou de l'obésité, de la mortalité cardiovasculaire, mais aussi des maladies chroniques de l'intestin et un diabète de type 2. Et bien évidemment aussi des problèmes de santé mentale. Il y a en plus de ces études observationnelles, il y a même des essais cliniques, donc des études plutôt expérimentales où les chercheurs ont pris deux groupes de participants, donc je vais parler de deux études en particulier.
Tiens, l'expérience dirigée par Kevin Hall, menée sur deux groupes de personnes qui suivaient deux régimes à composition égale, dont l'un était ultra-transformé, et l'idée c'était de regarder si ces deux régimes avaient les mêmes conséquences sur le nombre de calories consommées.
C'est ça. Donc ces chercheurs ont donc remarqué que les participants qui sont dans le groupe ultra transformé consommaient plus de calories et prenaient plus de poids que quand ils étaient dans la phase où ils consommaient des aliments. En fait, parce que justement, c'était la vitesse à laquelle on ingérait les calories, puisque ces aliments sont plutôt faciles à avaler et la densité énergétique est plus élevée. Donc, sans se rendre compte, on est en train d'ingérer beaucoup plus de calories et à une vitesse même plus rapide qu'on ne se rend même pas compte de nos signaux de satiété.
Et si je comprends bien, quand on mange de l'alimentation ultra-transformée, on se rend moins compte des quantités ingérées, parce que ces aliments sont mous et faciles à mâcher.
C'est ça, ils sont ils sont faciles à mâcher et on écoute moins notre corps et nos signaux de satiété. Et je vais quand même rajouter aussi une information sur une nouvelle étude qui vient d'être communiquée la semaine dernière dans le Congrès européen des maladies chroniques de l'intestin. Il y a des chercheurs de l'université King's College à Londres qui ont donc, pareil, fait une expérience sur deux groupes de participants souffrant de maladies de Crohn. Un groupe qui n'a eu aucune intervention et dans un deuxième groupe, on a donné exactement les mêmes aliments que le premier groupe, mais sans émulsifiant. On a reproduit les mêmes recettes sans émulsifiant et on a remarqué une nette amélioration des symptômes de la maladie de Crohn dans le groupe qui ne consommait pas d'émulsifiant.
Mélissa Mialon, oui, je rappelle que vous êtes ingénieure en agroalimentaire et docteur en nutrition.
Oui. C'est vrai que les aliments ultra transformés, en fait, c'est des milliers d'ingrédients dont on n'a pas beaucoup de recul, en fait, surtout sur leur effet quand ils sont mélangés ensemble. Donc, c'est des aliments qui sont autorisés, hein, comme c'est mentionné ce soir dans le reportage sur Arte. Mais quel est l'impact de ces aliments quand ils sont mélangés ensemble, quand en plus le processus transforme complètement l'aliment d'origine? Ça, il y a peu de recul et les études tendent à dire qu'il y a en effet un effet négatif sur la santé.
Professeur Sroux.
Et donc, maintenant, on a parlé de l'échelle macro, on va dire, des aliments ultra-transformés. Pour rentrer un peu dans l'échelle micro, il peut y avoir plusieurs hypothèses qui expliqueraient cela. En moyenne, on sait que ces aliments sont plus riches en sucre, sel, gras, etc. Mais ce n'est pas la seule hypothèse, justement, parce que la plupart des études ont pris en compte cette dimension nutritionnelle. Donc, il y a d'autres dimensions qui peuvent être responsables. On peut parler des additifs alimentaires. Loin de moi de vouloir faire peur à nos auditeurs. Bien évidemment, si un additif alimentaire est autorisé, c'est qu'il est passé par tout un parcours de où on va vérifier qu'il n'est pas toxique.
Donc, c'est l'argument de l'industrie.
Exactement, et c'est ce qui se passe en principe au niveau de l'EFSA, donc l'autorité européenne pour de la sécurité alimentaire. Sauf que l'EFSA, quand ils vont regarder l'innocuité d'un additif alimentaire, cette agence va se baser sur les études disponibles à un moment T. Et donc, s'il n'y a pas assez d'études, cette agence va conclure qu'il n'y a pas d'études pour dire que l'additif est toxique.
Et pourquoi, Bernard Sroux, le cocktail de sucre, de gras saturé, d'additifs, d'émulsifiants, de colorants ce cocktail, pourquoi est-ce qu'il est délétère pour notre santé?
Alors le sucre, le gras, le sel, ça on le sait depuis quelques dizaines d'années maintenant que c'est pas bon, ça engendre des perturbations métaboliques, ça peut entraîner la prise de poids, etc. Mais le problème des aliments ultra transformés, ce n'est pas uniquement le sucre, le gras, le sel, mais c'est cette surconsommation, c'est les additifs alimentaires, c'est l'effet matrice, c'est les contaminants du packaging, il y a tout un package, on va dire, de problèmes qui va avec.
Benoît Elbrun, professeur à l'ESCP.
Oui, moi je crois qu'il y a deux points importants. D'abord, il y a ce qu'on appelle là, dans le reportage la densité calorique évanescente. C'est le fait qu'on va aller justement au point de saturation acceptable du gras, du sucre et du sel. Et donc, on va toujours rechercher le plaisir et en fait, on va stimuler la zone du plaisir dans le cerveau et pas la zone du bonheur. Hein, qui est, donc, c'est la dopamine et pas la sérotonine. Et le deuxième point important, c'est que vous avez insisté, Alice, sur la mollesse des des aliments, c'est-à-dire qu'il y a une déstructuration complète des aliments. Il n'y a plus d'opposition entre le liquide et le solide, parce qu'on va mettre aussi les soft drinks là-dedans, évidemment, mais ça, les gens ne se rendent pas compte, parce que le problème, c'est que la catégorie est invisible. Il n'y a jamais marqué aliments ultra transformés sur un packaging. Donc les gens ne se rendent pas compte. Et donc, du coup, ça participe à une déstructuration généralisée, pas simplement des aliments et des molécules, mais aussi des repas, parce que c'est le fractionnement, c'est l'idée qu'on peut manger tout le temps, et donc c'est le lien entre la pulsion et l'impulsion, c'est-à-dire c'est souvent le marché de l'impulsion, je suis attiré parce que le packaging est attrayant, mais aussi c'est quelque chose qui est en dehors des structures traditionnelles, donc ça déstructure toute notre organisation.
Pierre Slamiche, cofondateur d'Open Food Facts.
Ben oui, on voit c'est la fameuse part d'estomac que l'industrie agroalimentaire des ultra transformés cherche à maximiser, et on voit aussi que ça crée de la dépendance, c'est-à-dire que dans le documentaire on voit des scènes assez hallucinantes, donc une scène en Colombie où les enfants repoussent des mandarines pour réclamer des petits biscuits, et puis on voit aussi le témoignage d'une accro à l'alimentation, et sur tout ce qu'il y a dans les aliments ultra transformés, le monoglutamate de sodium par exemple qui provoque l'effet de retour vers les aliments, on peut plus s'arrêter de consommer. Donc c'est tous ces ces éléments en fait qui peuvent créer jusqu'à une dépendance aux aliments ultra transformés.
Benoît Lebrun, revenons au packaging, c'est très important. Oui. C'est le premier vecteur de sens d'une marque. C'est le pilier stratégique d'une marque. Vous écrivez dans votre Que sais-je une chose essentielle. Le packaging change irrémédiablement le processus de choix des produits du fait que le consommateur n'est plus à même de sentir, toucher ou voir le produit avant de l'acheter.
Mais déjà, il n'y a plus de vendeurs. Donc je suis face à un système symbolique. Et en fait, il y a un mécanisme qu'on connaît depuis très longtemps, c'est le transfert sensoriel du packaging au produit. C'est-à-dire que quand on achète un produit, en fait, symboliquement, on consomme du packaging. Et donc, c'est pour ça que d'avoir des personnages, des couleurs, de culturaliser, par exemple, la sauce en disant c'est une sauce schtroumpf, c'est extrêmement important. Parce que
c'est la sauce que nous a apporté Pierre Slamiche, que l'on peut retrouver dans des fast-foods et qui ressemble un peu à de l'enduit, vous nous avez dit, Franck Thérieux.
Ouais, du joint de carrelage.
Voilà.
Oui, mais comme quoi, et c'est intéressant parce qu'il y a très peu d'aliments qui sont bleus, à part le roquefort et le gorgonzola. Donc arriver. Arriver à faire manger des aliments bleus, c'est une prouesse marketing.
Et vous le dites très bien dans votre Que sais-je, le packaging contient plus que des denrées, il symbolise et encapsule une façon de vivre. La spécificité du packaging de l'alimentation ultra transformée, c'est donner du sens à un produit de qualité très moyenne, voire plus.
C'est-à-dire qu'il faut surtout ne pas parler de la qualité, parce que c'est pas l'objet. Donc il faut projeter ce qui est un aliment dans un univers de sens. Et donc c'est pour ça que les catégories culturelles sont très très importantes. Et ça, les fast-foods l'ont extrêmement bien compris.
Ce que montre le documentaire d'Arte, c'est que le packaging crée un plaisir sensoriel. Quand on ouvre une canette de soda, quand on ouvre un paquet de chips ou de biscuits, eh bien ce packaging fait partie de l'expérience du consommateur.
Oui, c'est-à-dire que l'identité, elle n'est pas simplement visuelle, elle est aussi tactile, donc le toucher, et puis surtout, l'identité sonore est très très importante. C'est vrai que Coca a quelque chose que n'ont pas les autres marques, c'est la puissance. Quand on ouvre une canette, on sent déjà la pétillance du produit.
Peut-on dire que le packaging contribue à rehausser la qualité d'un aliment ultra transformé ?
Rehausser, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui va construire la perception de la qualité. Ça, c'est fondamental.
Tiens, écoutons un extrait du documentaire qui évoque justement l'identité sonore.
Manger est une expérience multisensorielle. Il y a l'aspect de la nourriture, son odeur, la sensation qu'elle provoque sur les doigts. Même le son est important. Quand on ouvre une canette de soda, on entend deux sons. Le clic et l'ouverture. Les ingénieurs du son et les fabricants travaillent dur pour obtenir le son parfait. C'est ce qu'on appelle l'identité sonore. Beaucoup de gens se souviennent que, quand ils étaient petits, ils portaient leur bol à leur oreille. Et pour écouter quoi ? Le crépitement des céréales. C'est le meilleur exemple qui soit d'identité sonore.
C'est vrai que ce crépitement des céréales du petit déjeuner dans le lait est assez irrésistible. Benoît Helbrun, voilà un bel exemple d'identité sonore, l'une des techniques de marketing assez irrésistible utilisée par l'industrie agroalimentaire.
Oui, là on parle des Rice Krispies, hein, je suppose. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a des ingénieurs acousticiens qui travaillent sur le bruit des produits, que ça soit même le bruit du Big Mac. Hein, le Big Mac, il a un toucher, il a une odeur, etc. Et par exemple, les gens ne savent pas que le bruit du clignotant, ça c'est un son qui est totalement travaillé. Le bruit d'un claquement de porte, c'est très important pour donner une idée de l'identité de la marque. Donc en fait, les gens sont guidés par des perceptions, et donc c'est le packaging qui est un des outils de manipulation, mais il faut aussi que par rapport à tout cela, il y ait une idéologie de la consommation d'impulsion. Ça c'est très important, c'est-à-dire que le packaging ne fait pas tout, évidemment.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur un point important, c'est le point de félicité. Un homme, Howard Moskowitz, a contribué à nous rendre accro aux aliments ultra-transformés grâce à la découverte de ce point de félicité. Expliquez-nous ce qu'est ce point de félicité, Mélissa Mialon.
Oui, alors c'est le point auquel, quand on consomme donc le sucre, gras et sel... il faut pas dépasser une certaine limite parce que voilà, sinon ça nous écœure. Mais il y a un point spécifique pour lequel c'est un peu la perfection dans le mélange de ces trois ingrédients là. Il y a Michael Moss qui en avait parlé dans un bouquin qu'il avait fait. Alors je sais pas s'il a été traduit en français, mais c'est vraiment une recherche de pointe qui est effectuée chez les industriels agroalimentaires pour trouver ce point de félicité.
Le point de félicité, c'est le plaisir maximal procuré par un aliment, donc la quantité de sucre, de sel, de graisse qui optimise le plaisir et rend les aliments irrésistibles. Pierre Slamich, hein, difficile de lutter avec ce point de félicité quand on essaye d'alerter le public sur les dangers de l'alimentation ultra-transformée.
Oui, c'est une manière de se réapproprier tout ça, c'est de se réinformer, donc de commencer à s'intéresser aux produits. C'est impossible de supprimer complètement les aliments ultra transformés. Il y a un objectif du programme national nutrition santé de baisser cette part d'aliments ultra transformés dans notre alimentation, mais c'est très difficile quand 80% de l'offre alimentaire c'est des ultra transformés.
Bernard Sroure, l'idée ce matin c'est pas de culpabiliser les consommateurs qui achètent de l'alimentation ultra transformée, parce que il faut savoir qu'il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, des gens qui n'ont pas le temps et qui recourent à ces aliments ultra transformés. C'est peut-être évidemment, ce matin, c'est d'alerter. Si on mange une fois de temps en temps un aliment ultra transformé, c'est pas grave. C'est quand ça devient le régime quasi quotidien. Et là, ça commence à poser des problèmes sanitaires.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est presque à 30% de nos calories quotidiennes qui proviennent de ces types d'aliments. On est plutôt bien protégé, entre guillemets, par rapport à d'autres pays, mais 30% c'est quand même beaucoup, mais si on regarde les États-Unis ou le Royaume-Uni, on est à 60%. Mais comme vous venez de dire, Ali, l'idée c'est pas de faire culpabiliser les personnes. Bien évidemment, on a tous un rythme de travail et de vie très très chargé. Il y a des personnes qui ne savent pas cuisiner. Qui n'aiment pas ça, c'est un fait. Donc le fait d'essayer de choisir une solution de facilité ne doit pas être aux dépens de la santé et de la qualité nutritionnelle qu'on ingurgite.
Et d'ailleurs, les anglo-saxons appellent ça le junk food. Ça veut tout dire, c'est la nourriture poubelle. Nous, on ne va pas jusque-là.
Pierre Slamich.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, comme le disait Bernard, il y a 1000 repas dans une année. Donc, ce n'est pas du 0 ou du 1, un échec où on a 1000 choix pour aller vers une alimentation moins transformée par an. Et même la bonne nouvelle aussi, c'est que dans des catégories, je prends par exemple des lasagnes à bolognaise, on va avoir des lasagnes qui sont marquées Nova 4, qu'on peut repérer sur Open Food Facts.
Nova 4, rappelez ce que c'est.
C'est le groupe des ultra transformés, c'est celui à réduire au maximum. Et on va avoir des lasagnes Nova 3. Donc, aliments uniquement transformés. Donc ça, on peut vraiment aller vers une alimentation moins transformée.
Dans ces Nova 3, uniquement donc des aliments qu'on retrouve chez nous. Et là, il n'y a pas de problème, en fait, parce qu'on peut reproduire cette recette à la maison. Donc, on consomme du Nova 3.
La liste des ingrédients est lisible.
Elle est lisible. On sait ce qu'on mange.
Vous, Franck Thérieux, vous êtes agriculteur en Corée. Vous avez des enfants. Est-ce que vous arrivez à éviter cette alimentation ultra transformée? Vous êtes comme tout le monde. Alors, voilà, vos enfants, par exemple, qui sont accros peut-être à cette alimentation.
Je suis pas meilleur que les autres. Cependant, en habitant à la campagne, en produisant ma viande, etc., je pense que l'essentiel, c'est de montrer aux jeunes, montrer aux enfants comment cuisiner, simplement. Ça peut être rapide, enfin voilà. Mais la part de proportion de viande qui augmente dans la consommation chez tous les consommateurs, c'est la part de viande hachée. Or, lorsqu'on produit un veau, une vache, enfin, une viande de qualité, une viande de label rouge, la plupart du temps, on n'a pas besoin de la transformer, quoi. Un aliment qui est sain par nature et qui est d'une qualité exceptionnelle, il y a très peu besoin de transformation. Ce qu'on transforme, c'est les morceaux bas de gamme, enfin, ce qui se vend pas ou très peu. On en fait de la bouillie et ça va dans des plats cuisinés, dans des lasagnes, comme vous citiez tout à l'heure, etc. Mais non, je pense qu'il faut... Les enfants, le plus possible, il faut les éduquer. Essayer de cuisiner avec eux, même si je le fais pas toujours. Mais le fait de le voir, moi, c'est mon arrière-grand-mère qui m'a appris à cuisiner, voilà, par exemple.
Ça va dans le sens du message d'Aude qui nous écrit « Je me demande si l'appétence pour les produits ultra-transformés vient de la petite enfance. J'ai 49 ans, je n'ai quasiment pas consommé ces produits dans ma petite enfance et je n'ai aucune attirance pour ces produits, voire plutôt du dégoût. » Bernard Sro.
Oui, ça peut être ça. Donc, si on n'est pas habitué à ces produits, on a moins de probabilité de les consommer, mais il y a quand même un effet générationnel. Il y a 49 ans, il n'y avait pas autant de produits ultra transformés qu'il y a aujourd'hui. Et ça, on le voit dans les chiffres officiels des tendances de consommation ultra transformées qui ont pris 10, 20, 30 points même dans des pays.
Rappelez-vous tout de même en 1976, L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès et Coluche qui mettaient en scène l'entreprise Tricatel qui produisait massivement de l'alimentation ultra transformée assez dégueulasse. Mélissa Mialon.
Oui, alors non, je voulais un peu revenir sur cette idée du rôle de l'individu en fait à choisir une alimentation ultra transformée ou pas. C'est vraiment instinctif en fait hein, d'aller vers le gras, le sucre, le sel. On a survécu tout au long de l'humanité grâce à ça. En fait, on était souvent face à des périodes où on n'avait pas assez d'alimentation, donc c'était normal. Le corps en fait cherche ce genre d'aliments. Là où l'industrie agroalimentaire, en plus, maintenant, voilà, il y a le packaging, il y a de la publicité, etc. Donc, en fait, pour une question d'égalité, d'équité, il y a plein de monde qui n'a juste pas le temps de cuisiner, qui n'a pas le temps de regarder les étiquetages, etc. Donc, c'est important que le gouvernement aussi mette en place des mesures pour limiter la disponibilité de ces produits-là, en fait. Ça, c'est pas de l'ordre individuel. On peut se renseigner, bien entendu. On peut essayer de faire attention, mais il y a plein de monde pour qui, pour qui c'est vraiment très compliqué de choisir une alimentation qui n'est pas ultra transformée.
Pierre Slamich.
Et pour rebondir sur ce que dit Mélissa, le débat responsabilité individuelle contre responsabilité collective, c'est un débat qu'on a aussi vu sur la cigarette, ces débats comme ça. Et c'est pas un hasard parce que on voit dans le documentaire que typiquement
non seulement les similitudes,
mais que même les cigarettiers se sont mis à une époque à investir dans l'industrie agroalimentaire parce que c'est le même business fondamentalement, c'est vendre des arômes aux gens et avec un marketing qui cible les enfants, les femmes, pour se créer en fait des consommateurs à vie.
Bernard Sro.
Moi je voulais rebondir aussi pour dire que oui, certes, la question de l'éducation des enfants est très importante, mais si nos enfants sont tout le temps entourés de messages, de publicités qui les incitent à consommer ces produits, on ne va pas s'en sortir. Si à côté des écoles, on n'arrive même pas à réguler la publicité pour ces produits-là, c'est quand même catastrophique. Si dans les rayons de supermarché, on fait exprès de mettre les produits appétissants pour les enfants à leur niveau visuel, c'est quand même problématique.
Et tant qu'il y aura ces petites sauces bleues qui ressemblent donc à du joint de carrelage proposé par les fast-foods, Pierre Slamich, c'est vrai que le combat il est assez inégal quand même, parce que pour les enfants, voir ce genre de petite sauce schtroumpf, ça donne envie. Hein.
Oui, bien sûr que ça donne envie, et c'est fait pour hein, les clowns dans les fast-foods, etc. Mais y a des choses qui sont possibles au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de prendre des mesures pour éviter que les enfants se fassent cibler sur Internet par des publicités pour de la junk food. Il y a ce que disait Bernard dans Le Monde Réel aussi, et c'est des mesures qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. C'est juste réguler les aliments ultra-transformés pour les rendre moins appétissants, moins hyper-appétissants.
Allez, il est déjà l'heure de retrouver la chronique d'Éric Libio, assurée cette semaine par Marie-Laure Zunshein.
Ne dit-on pas des objets inanimés ?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Ali Rebéi.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
Sur France Inter.
Marie-Laure Zunshein.
Vous me pardonnerez, Alice, pas de côté, puisque je ne vais pas vous parler d'un objet, mais faire du sujet du jour l'objet de cette chronique, puisqu'il est question ce matin d'ultra-transformation. Alors oui, chers auditeurs, vous voilà témoins d'une transformation, toute temporaire, rassurez-vous, puisqu'Éric Lee Bio, comme l'évoque la moitié de son nom, ne pouvait décemment participer à une émission consacrée aux arômes, émulsifiants et autres produits chimiques, eu égard à son goût pour l'authenticité, le naturel, la qualité. Quel objet aurait-il choisi pour illustrer le propos ? Un domino, ce morceau de sucre à la forme rectangulaire, identique à la pièce du jeu et à l'effet du même nom, dévastateur sur tout système, dès lors que se grippe le premier élément de la chaîne ? Aurait-il consacré sa chronique à la fourchette, cet ustensile de table à l'usage généralisé au fil des siècles, mais menacé aujourd'hui par ceux-là même qui la tiennent, le pouce et l'index ? La tendance de la finger food qui consiste à manger avec les doigts a fait main basse sur nos bonnes manières. Plus largement, je vois mal Éric Lee Bio disserter sur les nuggets au ketchup ou la crème glacée au caramel, lui que j'imagine bien volontiers découper le gigot du dimanche, à la manière de Michel Piccoli, le pétage de plomb en moins, dans Vincent, François, Paul et les autres. Les autres, justement, ces aliments ultra transformés. Revenons-y. D'ailleurs, on dit AUT ou haute. Ce sigle n'a pas l'apanage de la malbouffe. AUT, c'est aussi l'association des usagers des transports. Rien à voir, pas sûr. Après tout, ces substances, le sucralose, les nitrites et j'en passe, peuvent véhiculer des composés toxiques, avec à la clé un forfait annuel cher payé pour subir des encombrements gastriques, des retards de digestion ou des engorgements du côlon. Une association de malfaiteurs qui se balade sans limitation de vitesse dans nos intestins, avec les conséquences sanitaires que l'on sait. Et l'AUT de revendiquer, à raison, des transports plus efficaces et des déplacements plus agréables, notre microbiote ne l'aurait pas dit autrement. Ces trois lettres que l'on prononce « out » pour les latinistes que vous êtes certainement, c'est aussi cette conjonction de coordination qui signifie « ou bien ». Donc on se résume, soit on cuisine des aliments sains, de qualité, frais et bio si possible, ou bien, out, on prend le risque d'avaler n'importe quoi. Je ne tenterai pas de traduire cette dernière phrase en latin, ayant toujours été très mauvaise en thème, quoique guère meilleure en version. Mais une chose est sûre, mieux vaut toujours la version originale qu'une pâle copie. Éric Lee Bio me donnera assurément raison sur ce point, car ce dur à cuire, sous ses airs de nounours mal léchés, n'est pas pour les consensus mous. Et vous savez quoi ? Notre organisme non plus. Car ces AUT qui nous intéressent et nous inquiètent aujourd'hui ont aussi la particularité, bien souvent, d'être des aliments mous, qui fondent sous la langue. Chips, burgers, compotes, purées. À quoi bon avoir des incisives si l'on se passe de leur mission première, celle de déchiqueter et de couper les aliments ? Il ne reste plus alors à se mettre sous la dent que des remarques incisives, certes pertinentes en radio, mais peu visibles à l'IRM de nos intestins. J'en ai terminé à lire de cette chronique à la noix, fruit à coque exemplaire, classé Nova 1, aliment clé d'une hygiène de vie saine. Et puisque de clé il est question, je vous rends le trousseau à transmettre à son propriétaire pour de prochaines chroniques 100% authentiques.
Et non, Marie-Laure Zonshine, ce n'était pas une chronique à la noix. Vous avez brillamment remplacé notre ami Éric Lee Bio, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Merci beaucoup Marie-Laure, on vous retrouve évidemment tout à l'heure pour vos questions pertinentes.
France Inter.
Les chips à l'ancienne, excellente. Nouvelle recette, nouvelle arnaque. Ouais.
Grand bien vous fasse.
Normalement une vieille chips, c'est mou, ça n'a pas de croustille. Et là, comme par hasard, elle croustille. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit problème ?
Allez réveille.
Comment l'industrie nous fait avaler son alimentation ultra transformée et pourquoi on en redemande à l'occasion de la diffusion ce soir sur Arte à 21h du documentaire britannique Tous accros, le piège des aliments ultra transformés. Et pour y arriver, l'industrie utilise également la neuroimagerie.
On a mis un sujet dans un scanner, on lui a donné des choses à manger et on a étudié son activité cérébrale. L'une des études qu'on a menées consistait à faire manger différents types de glace à des sujets placés dans un scanner. On a découvert que cette zone située à l'avant du cerveau, appelée cortex orbitofrontal, et qui gère le système de la récompense, brillait de mille feux. Quand on regarde l'activité du cerveau, pas de tricherie possible. L'imagerie cérébrale est de plus en plus utilisée pour prédire si des produits auront du succès ou pas.
Pierre Slamich d'Open Food Facts, c'est assez redoutable.
Oui, c'est la création des produits poussée à l'extrême. C'est des 10 000 concepts de produits, 1 000 produits testés, réalisés pour 100 produits ultra optimisés, ultra transformés qui sont mis sur le marché par les grands acteurs industriels.
Alors, vous nous avez apporté un paquet de chips, Pierre Slamich. Racontez-nous quel est ce paquet, c'est des... On peut citer la marque
Oui, c'est un paquet de tuiles. En fait, si je vous l'ouvre, vous allez le reconnaître rien qu'au bruit, en fait. Très concrètement, si je vous l'ouvre, vous prenez, voilà, vous avez déjà, j'ai même pas besoin de dire la marque, c'est Pringles, il y a Lay's, il y a Vico, Bretts, etc. Il y a d'autres marques de tuiles.
Et qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce packaging ?
Alors, ce packaging, on voit, en plus de la marque, on voit un personnage de jeu vidéo, donc là, Super Mario, clairement qui cible les enfants. Si on retourne l'emballage, c'est un aliment ultra transformé. On va avoir du monoglutamate de sodium.
La liste est assez longue.
La liste est assez longue et assez surréaliste. Donc, on a des pommes de terre déshydratées.
Vous pouvez citer peut-être.
Pommes de terre déshydratées, huile de tournesol, farine de blé, farine de maïs, farine de riz, assaisonnement piment. Donc, c'est assaisonnement piment et épices et exhausteur de goût. Donc, les exhausteurs de goût, c'est ces molécules qu'on va mettre dans des produits pour les rendre hyper appétissants. Et ça donne un peu le syndrome où on a envie de terminer le paquet d'un coup. Donc là, c'est plus près de 200 grammes de tuiles qu'on a envie de consommer à cause du monoglutamate de sodium qui est ensuite dans cette liste des ingrédients.
Benoît Elbrun, je rappelle que vous êtes professeur à l'ESCP. Juste un mot sur packaging, parce qu'il y a des auditeurs qui se plaignent qu'on utilise ce terme-là au lieu d'emballage, sauf que...
En fait, le packaging, c'est une dimension de l'emballage. C'est ce qu'on appelle l'emballage primaire. C'est celui qui est en contact avec le produit. Donc, on n'a pas trouvé de meilleur mot. Si on pourrait dire le paquet, le packaging, c'est pas très vendeur. Mais je mets au défi les auditeurs de me trouver une bonne traduction de marketing. Tous les mots du marketing sont intraduisibles pour montrer la force du système américain.
À ce niveau-là, c'est même plus du packaging, c'est du conditionnement.
Oui, au sens propre et figuré.
Vous avez observé ce packaging donc de chips.
Mais je pense que tout est dans ce packaging parce que Pringles, c'est une marque, je le rappelle, qui a été inventée par un Procter & Gamble qui fabrique de la lessive et du détergent. C'est Ariel, c'est
Procter & Gamble, c'est la grande multinationale
américaine, donc qui est leader sur plein de marchés des nettoyants, des lessives et des dentifrices. Et en fait, l'idée, c'est qu'on vend ça comme si c'était un produit de grande consommation. Il n'y a absolument aucune référence à la chips parce que il n'y a pas un gramme de pomme de terre. Donc, il n'y a pas d'appellation chips. Donc, en fait, on n'est pas sur le marché de la chips. Mais pourquoi ça a été une révolution ? Parce qu'on apporte de la praticité. C'est-à-dire qu'avant, la chips, c'était ce qu'on mettait dans le sac des enfants pour le pique-nique avec la banane écrasée. Et en fait, on mangeait des miettes. Et en fait, là, on propose une technologie qui permet d'avoir des tuiles entières. Et ça, donc, ça rappelle que on a beaucoup parlé du plaisir, mais il y a une autre dimension dans la junk food, dans les aliments ultra transformé, c'est la praticité, pas forcément la paresse, mais l'idée que je vais acheter ça, j'ai pas besoin de cuisiner, Et donc ça, c'est problématique.
Mélissa Mialon, est-ce qu'on peut dire que nous sommes accros à ces aliments ultra transformés ? Accro, cela renvoie à addiction, une addiction du type cigarette. Est-ce que c'est pas un peu fort de parler d'addiction ou d'être accro ?
Alors, étant pas spécialiste de l'addiction par rapport à l'alimentation,
en tant que docteur en nutrition, est-ce que ça vous choque que l'on puisse
les
dire
les industriels cherchent à exploiter notre plaisir, des sensations très profondes au maximum. Et vraiment, quand on parle là, par exemple, de neuromarketing, moi, à l'époque, quand j'avais fait mon école d'ingénieur agroalimentaire, on avait plutôt des panels de consommateurs, donc ça restait quand même très subjectif. Là, vous allez voir le cerveau, vraiment avec des protocoles qui sont beaucoup plus poussés que ce qu'on pouvait avoir, des choses qu'on contrôle même pas. Donc, il y a aussi, on a brièvement mentionné ça, mais toute la publicité qui est faite sur les réseaux sociaux et puis le marketing digital aussi, c'est des choses pour lesquelles, en fait, en santé publique, on a un peu un temps de retard à savoir comment tout ça joue sur les pratiques de consommation, mais en tout cas les industriels, oui, ont des techniques très bien rodées. De là à appeler ça de l'addiction, je laisserai peut-être d'autres collègues qui sont plus à même de répondre sur la question.
Professeur Bernard Sroure, épidémiologiste.
Peut-être juste une parenthèse pour dire qu'il y a quand même un gros marché de ces arômes, des fabricants de ces arômes, de ces additifs, surtout aux États-Unis, dont sont propriétaires les anciens propriétaires des usines de tabac et de...
Mais est-ce qu'on sait si ces additifs créent une addiction. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées sur ce sujet?
Il y a eu quelques recherches en fait qui se sont basées sur 3 ou 4 critères qui sont cités par un rapport américain des années 80 ou 90 justement qui datait de l'époque où on voulait absolument prouver ça pour le tabac. Donc c'était est-ce que ça crée une dépendance chez le consommateur? Est-ce que ça rend le consommateur est-ce que ça empêche le consommateur de s'arrêter, etc. Il y a eu 4 critères et ces chercheurs ont montré que les aliments ultra transformés cochaient les cases de ces 4 critères-là.
Question de Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Oui, Benoît Elbrun, on comprend bien les enjeux économiques colossaux pour le secteur de l'industrie agroalimentaire. On voit aussi, et Bernard Schrour les a développés, toutes les études scientifiques qui nous apprennent l'une après l'autre les dangers pour la santé des enfants aussi, bien entendu. Et on se retrouve finalement au milieu du gué avec des pouvoirs publics qui sont tenaillés entre tous ces enjeux. Et puis des chartes de bonnes pratiques, des engagements, le volontariat, mais finalement pas de mesures fortes. Pierre Slamich l'évoquait tout à l'heure, il y a quand même, et ça existe notamment le Royaume-Uni, qui a mis en place pour lutter contre l'obésité, une véritable réglementation depuis 2022 qui impose des mesures strictes, pas de publicité à la télévision, sur Internet, sur les produits riches en graisse, en sucre, en sel à certains horaires, restriction des promotions 2 en 1 dans les rayons des supermarchés, interdiction, hein, le mot est là, de placer en tête de gondole des produits trop gras, trop sucrés. Et la France, on fait quoi?
La France, on ne fait pas grand-chose. Je crois qu'on a réussi quand même à interdire les distributeurs automatiques dans les écoles primaires. Donc ça, c'est très important, parce qu'il faut éviter le contact entre les enfants et les marques. Mais après, les enfants, ils vont faire leurs courses de temps en temps avec leurs parents. Et moi, je pense qu'il y a un levier qui est essentiel, mais c'est le levier éducatif. C'est-à-dire que je sais que tout le monde n'a pas envie de faire la cuisine, mais il faut réapprendre via l'école et via la famille aux enfants ce que c'est que goûter une carotte, ce que c'est que faire une soupe. C'est quand même pas très compliqué. C'est-à-dire que susciter l'autoproduction, donc savoir faire les choses, ça donne un sentiment de fierté. Et puis, c'est évidemment, ça va passer par un certain nombre d'interdictions comme au Royaume-Uni.
Bernard Schrour.
Il y a aussi un levier financier d'abordabilité, d'accessibilité de ces produits. Si les aliments ultra transformés coûtent moins cher que les aliments bruts, forcément, les foyers à faible revenu vont se tourner vers ces produits. Et juste, je me permets une petite parenthèse, quand on voit qu'au 1er janvier 2025, les foyers ne peuvent plus utiliser leur ticket resto pour acheter des aliments bruts, avec tout ce qu'on vient de dire sur l'état de la science sur le sujet, on se dit qu'on marche sur la tête quand même dans ce pays.
Pierre Slamich, pour terminer, avec votre application gratuite Open Food Facts, on peut détecter les aliments ultra transformés quand on fait ses courses?
Ouais, c'est très simple, on scanne un code barre et on a directement le nouveau Nutri-Score, parce qu'il faut savoir que le Nutri-Score est bloqué politiquement dans ce pays depuis des mois, et puis les aliments ultra transformés et le nombre de marqueurs d'ultra transformation, donc plus il y en a, plus évidemment c'est problématique.
Un mot de conclusion, Franck Thérieux, agriculteur en Corrèze.
Oui, je voulais dire aussi que tout ce qui était restauration hors foyer, on ne maîtrise pas l'origine des aliments.
Oui, c'est vrai.
Et pour ce qui est des viandes, une grande partie des viandes d'importation se retrouvent dans ces produits ultra transformés. Alors que si on cuisine soi-même, on peut se faire conseiller par son boucher, etc. Voilà.
Merci beaucoup, Franck Thérieux. Merci, Mélissa Mialon, Bernard Schrour, Benoît Elbrun et Pierre Slamich. Je recommande de regarder Tous Accros, le piège des aliments ultra transformés, ce soir sur Arte à 21h. Et c'est déjà disponible sur arte.tv.
Rendez-vous face, un podcast France Inter.